Et nous croyons qu'elle qui était au commencement, elle qui était avec Dieu, elle qui est elle-même divine, notre Père et notre Dieu, que ton nom soit encore béni, élevé ce matin en ces lieux, dans cette assemblée. Laisse que pour cette circonstance, tu nous parles encore, tu nous instruis encore, tu nous convaincs encore, tu nous édifies encore par ton esprit. Nous nous disposons à recevoir la semence de vie qui est ta parole. Alors parle encore tes serviteurs, écoute et fais-nous passer de l'ignorance à la connaissance, éclaire-nous encore par ta parole dynamique et vivante. Est-ce que l'honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ seul, notre Seigneur et notre Dieu. En ces lieux, prends toute la place et instruis chacun de nous, y compris moi-même, par ton esprit. Au nom de celui qui était, de celui qui est parmi nous et de celui qui vit éternellement, Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié ensemble, on peut dire Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons continuer à échanger, à partager sur la prière des fils. Parce que nous avons dit que les fils, ils sont différents des enfants. Les enfants, ce sont des enfants, ce sont des chrétiens nés de nouveau, mais qui malheureusement n'ont pas conscience de réellement qui ils sont en Christ et qui font preuve de beaucoup d'immaturité. Et sachant que cette année, nous voulons travailler sur notre maturité, nous voulons grandir avec Dieu, parce que ce n'est pas possible qu'on reste des enfants. Nous sommes appelés, comme déclare les Écritures, à aller de progrès en progrès, de gloire en gloire avec le Seigneur. Donc il n'y a pas de raison que chaque année se ressemble, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas avancer avec Dieu. Et je pense qu'il y a une volonté divine que nous puissions passer à un niveau supérieur avec le Seigneur. Donc nous avons vu le dimanche passé les principes, certains principes qui sont rattachés justement à la prière, parce que je vous disais que nous devons voir la prière autrement, voir la prière dans une dimension d'homme et de femme mature en Christ. Parce que nous avons des bases, mais là nous voulons vraiment aller un peu plus loin. Nous avons vu les prérequis de la prière, et dans ces prérequis de la prière, nous avons parlé de l'élément fondamental qui est la foi. Parce que je disais que tout le monde ne peut pas prier, tout le monde peut parler à Dieu, mais tout le monde ne peut pas prier, parce que la prière est réservée aux nés de Dieu. Ceux qui sont nés de nouveau ont accès à Dieu et à la communion. Celui qui n'est pas né de nouveau, il n'a pas accès au cœur de Dieu, il n'a pas accès à la communion, mais il peut parler, parce que Dieu, il a créé toute chose, Dieu entend, mais il ne peut pas être en intimité avec Dieu, parce que c'est réservé aux nés de Dieu. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas droit à la communion, tu ne pourras pas rentrer dans cette sainte présence parce que tu n'as pas répondu au principe d'être sauvé par la foi, parce que c'est la foi qui saisit la grâce de Dieu. Amen. Et nous avons vu dans ces prérequis que cette foi doit se reposer sur deux éléments fondamentaux, à savoir qui est Dieu. Dieu est et Dieu fait. Parce que vous ne pourrez pas prier un Dieu dont vous ne maîtrisez pas, vous ne mesurez pas, vous ne réalisez pas l'existence. C'est pourquoi la Bible déclare dans Hébreux 11 au verset 6 que celui qui prie, qui s'approche de Dieu, doit croire que Dieu existe d'abord et ensuite que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, premièrement, que Dieu existe, c'est-à-dire que Dieu est le mystère de sa présence et qu'il est le rémunérateur, le mystère de la puissance de Dieu, Dieu qui exauce nos prières, Dieu qui donne à ceux qui lui demandent. Alléluia. Parce que si ces deux éléments, vous ne les maîtrisez pas, vous ne les réalisez pas, ça ne sert à rien de prier. Parce que si on prie, c'est qu'on veut voir Dieu agir. On ne prie pas juste parce qu'il faut passer du temps. On ne prie pas juste parce qu'il faut juste parler. On prie parce qu'on a besoin également de réponses. De la même manière que nous allons adorer, nous allons élever le Seigneur, mais nous avons besoin de réponses. On a besoin d'être sûr que lorsque nous invoquons Dieu, nous lui parlons, il y a un retour. Sinon, on va repartir dans les traditions africaines. On a un bout de bois, une image là, et puis on parle dans le vide. On a besoin de savoir que Dieu, justement, est le mystère de sa présence. Et j'avais dit également que lorsqu'on est incroyant, Dieu est obligé, je dis bien obligé, de se révéler à nous dans le surnaturel pour nous montrer qu'il est. Les signes et les prodiges, c'est pour les païens là, pour leur permettre de croire, de saisir que Dieu est. Maintenant, après être rentré dans la famille de Dieu, tu n'as plus besoin que ta foi se repose sur les signes et les prodiges parce que tu sais déjà qu'il est. C'est pourquoi pour ceux qui sont nés de Dieu, il dit heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Maintenant, notre joie ne consiste pas à voir d'abord Dieu faire pour se rassurer, mais c'est de croire, de faire reposer notre foi sur ce qu'il a dit. Mais le païen, il n'a pas la parole de Dieu. Donc sa foi ne repose sur rien. Donc il faut que Dieu se révèle d'abord dans le surnaturel, dans les signes, dans les prodiges, pour que la foi naisse. Et lorsque cette foi, elle est née, maintenant, après, lorsqu'elle rentrera dans la maison de Dieu, dans le monde de Dieu, dans l'environnement de Dieu, maintenant, elle va avoir un support. Sa foi va se reposer maintenant sur quelque chose. Donc, à travers l'histoire de 2 Chroniques 20, on a vu certains principes de la prière. La première des choses, on a dit que prier, il faut se disposer. Josaphat s'est d'abord disposé. Parce que je vous avais dit que nous pouvons parler, penser qu'on prie Dieu alors qu'on n'est pas là. Se disposer, c'est vraiment mettre toutes les conditions en place, être focalisé sur Dieu. Parce que je vous l'avais dit, nous l'avons tous expérimenté, tu peux prier, dire que tu pries, mais ton esprit ailleurs. Mais celui qui te regarde ou qui t'entend, il va dire que tu pries. Mais toi-même, là, tu sais que tu n'es pas en connexion avec Dieu parce que ton esprit est en train de se balader dans ton orléans. Et on est tous passés par là. Tu veux être dans des moments avec le Seigneur et au moment où tu veux, tu rentres dans cette présence, dans cette intimité, mais ton esprit qui est censé, lui, être en communion avec Dieu parce que quand tu pries, c'est ton esprit qui prie. Mais l'esprit n'est pas là. Tu sens que tu es en train, tes pensées sont à droite, à gauche. Tu es en train de te balader, mais la bouche parle. Comment vous expliquez ça? La bouche parle, mais l'esprit n'est pas là. Donc ça veut dire que si tu t'enregistres avec un dictaphone et que quelqu'un t'écoute, il va dire il prie. Mais toi-même, tu sais que tu n'es pas en connexion parce que ton esprit n'est pas là. Mais c'est la bouche qui parle. C'est pourquoi prier, il faut se disposer. D'où le Seigneur Jésus a dit, lorsque tu veux prier, rentre dans ta chambre, tu fermes la porte. Et dans le secret, là, tu vas parler à Dieu. Pourquoi il a pris cette image? Parce que quand tu vas rentrer, la chambre, déjà, c'est l'intimité. Et on dit, tu fermes la porte. Pourquoi? Parce que pour éviter les distractions, le bruit, pour éviter d'être dérangé, il faut que tu sois, que Dieu soit le centre, focalisé, fixé sur Dieu seul. Pas que tes pensées soient à droite et à gauche. Tu es là, ce temps lui a été accordé, lui a été réservé. Donc tu te disciplines à te focaliser sur Dieu seul, pas sur autre chose. Tu ne peux pas prier et en même temps tu es en train de réfléchir. Bon, après là tu vas faire comment? Comment je vais régler le problème de la maladie, de la santé, le boulot, la famille en Afrique? En même temps tu parles à Dieu, en même temps ton esprit est là-bas. Et tu vas sortir de là, tu vas dire que tu as prié, tu n'as pas prié, tu as parlé. Mais tu n'as pas prié. Parce que tu n'as fait que émettre des sons. Hein? La bouche. Mais tu n'as pas prié parce que ton esprit n'a pas été en connexion avec le Père. C'est ça la nuance. On peut parler sans être en connexion avec Dieu. On parle parce qu'il faut parler. Nous avons besoin, on veut grandir en maturité, que nous soyons en communion d'esprit avec notre Père, ce qui ferait une prière efficace. Et Josaphat s'est disposé. Premièrement, la prière, il faut se disposer. Deuxièmement, j'ai dit que après s'être disposé, il y a quand même un protocole, et le protocole veut qu'il faut élever Dieu. Et Josaphat a élevé Dieu. Il n'a pas commencé par poser tous les problèmes, il n'a pas commencé par dire à Dieu, Seigneur, ça ne va pas. Josaphat a élevé Dieu, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il élève Dieu, il élève le nom de Dieu. N'est-ce pas toi qui es Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur les royaumes? N'est-ce pas toi? N'est-ce pas toi? Et n'est-ce pas toi? Il élève Dieu. Alors qu'il aurait pu passer par un autre chemin. Élever Dieu, je dis sur la base, encore une fois, de ce qu'il est. Parce que quand Josaphat élève le Seigneur, il élève pas sur quelque chose qu'il a inventé. Hein. Tout ce que Josaphat a dit était vrai. Il dit, n'est-ce pas toi Dieu dans les cieux? Point d'interrogation. Dieu allait répondre comment? Il pose, c'est une phrase interrogative. N'est-ce pas toi Dieu dans les cieux? Maintenant, Dieu, comment va-t-il répondre à cette phrase interrogative? Il y a combien de Dieu dans les cieux? Il y en a combien? Il n'y en a qu'un seul. Donc, il sait très bien, en élevant Dieu, n'est-ce pas toi Dieu dans les cieux? Je reconnais qu'il n'y en a qu'un seul dans les cieux, c'est toi. Parce que Dieu ne va pas dire, bah, attends, je veux voir, je veux me renseigner, est-ce qu'on n'a pas d'autres? N'est-ce pas toi Dieu dans les cieux? Il est le seul. Le seul dans les cieux. Et troisièmement, Josaphat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rappelé les promesses de Dieu. Parce que Josaphat, après avoir élevé Dieu, il rappelle à Dieu ce que Dieu avait dit à Salomon concernant le temple. Dieu avait dit à Salomon, quand les gens vont prier là, mes oreilles seront attentives et mes yeux seront sur leur prière. Donc, Josaphat vient et rappelle, Seigneur, tu avais dit ceci, tu avais dit cela à Salomon, notre père. Il rappelle les promesses de Dieu. Et je vous avais dit qu'il est important lorsque vous priez que vous puissiez d'abord bien identifier le problème que vous avez et de découvrir dans la parole de Dieu les paroles qui sont rattachées à ce problème. Est-ce que quelque part, il n'y a pas une parole, des promesses de Dieu qui concernent ta situation? Si c'est un problème de maladie, que dit la Bible sur la maladie? Si c'est un problème de détresse, que dit la parole de Dieu sur la détresse? Pour que tu t'assoies sur ses paroles et que tu parles à Dieu sur sa parole. Mais sa parole concernant ta situation. Tu ne vas pas parler d'un problème de détresse et tu viens parler à Dieu les promesses sur la guérison. Ça n'a rien à voir. Par rapport à la situation que tu vis, est-ce que quelque part il n'y a pas une promesse de Dieu? Est-ce que quelque part Dieu n'a pas déclaré des paroles? Il faut découvrir cela comme Josaphat. Parce que Josaphat, frères et sœurs, il n'a pas vécu à l'époque de la dédicace du temple. Il n'était même pas né. C'était Salomon. Mais Josaphat va se souvenir que... Donc c'est sûr que dans la transmission orale, Salomon, je ne sais pas s'il a écrit ça quelque part, mais en tout cas, une chose est certaine, il y a une traçabilité de ce que Dieu avait dit à Salomon dans 2 Chroniques chapitre 7. Dieu va dire à Salomon, voilà ce que je vais faire. Donc c'est sûr que la descendance qui est venue après a pris connaissance que Dieu avait dit à Salomon. À cause de ça, le temple là, voilà ce que je vais faire. Donc il prend les paroles de Dieu et il les présente à Dieu. C'est pourquoi il a dit dans Ésaïe, réveille, réveille ma mémoire. Donc vous allez réveiller la mémoire de Dieu sur la base de quoi? Sur la base de sa parole. Et Josaphat il vient dans sa présence avec la parole. Il dit, voilà Seigneur, tu avais dit. Voilà ce que tu avais dit. Il n'a pas commencé par pleurer. Quatrième vérité, on a dit que après avoir rappelé les promesses, il fallait reconnaître son incapacité. Parce que finalement, quand on s'approche de Dieu, on ne vient pas avec notre suffisance. On vient dans l'esprit, comme a dit Jésus, que je suis le cep, vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Votre vie dépend de votre attachement à ma personne. Donc, Josaphat reconnaît, il dit, je suis faible. Nous sommes faibles. Je lui présente la situation, il reconnaît son incapacité et sa dépendance vis-à-vis de Dieu. Il reconnaît les faibles. Parce que si nous ne sommes pas faibles, on n'a pas besoin de Dieu, donc pourquoi on va prier? Nous allons vers celui qui est plus fort que nous. Celui qui a la capacité de nous faire passer de nos faiblesses à des hommes forts, n'est-ce pas? Parce que de nous-mêmes, là, on ne peut rien faire. Même le diable, est-ce que vous pensez que son Dieu l'on peut tenir? Nous ne pouvons même pas tenir. Nous pouvons tenir devant Satan que par Christ qui vit en nous. C'est tout, hein. Sans Christ, là, on ne peut rien faire. Rien. Et il a dit, sans moi, on ne peut rien faire. Alors, je ne vais pas te reconnaître. Il ne dit pas, on va essayer de se battre. On va essayer de combattre. Et après, si on n'arrive pas, Seigneur, viens à notre secours. Non, il ne cherche même pas à aller engager le combat. Il dit, nous sommes sans force. Nous sommes pour nous sans... force. Voilà. Nous sommes sans force. Il reconnaît son incapacité. Et c'est par là que nous allions terminer le dimanche passé. Et aujourd'hui, je disais que nous allons voir maintenant s'attendre à Dieu. Parce que maintenant, après, il faut s'attendre à Dieu. Tu reconnais ton incapacité, c'est vrai. Mais il faut s'attendre à Dieu. Alors, sans plus tarder, nous lisons. Pourquoi de s'attendre à Dieu? 2 Chroniques 20, verset 12. 2 Chroniques 20, verset 12. S'attendre à Dieu. Donc, il faut reconnaître, mais maintenant, il faut aussi s'attendre à Dieu. Vous ne pouvez pas prier et ne pas vous attendre à Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prient, mais qui ne s'attendent pas à Dieu. 2 Chroniques 20, au verset 12. Josaphat, toujours lui dans sa prière. Il dit, « Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Voyez ce qu'il dit ? Il dit, « Nous sommes sans force devant cette multitude, il reconnaît ses incapacités, et nous ne savons que faire, toujours dans leur incapacité, mais nos yeux sont sur toi. » Donc, malgré toute cette situation, nous allons garder les yeux sur toi. On va continuer à s'attendre à toi. Nos yeux sont sur toi. Nous sommes faibles. Nous sommes incapables. Mais on va continuer à regarder vers toi. Il faut s'attendre à Dieu. Et nous allons voir certains passages justement qui parlent de cela. Nous allons dans Actes chapitre 12. Le dimanche passé, j'avais parlé de Actes 13, c'est plutôt chapitre 12 de Actes, où l'église était en prière. Actes chapitre 12. Ils priaient, comme nous prions souvent. Mais le problème, c'est que quand ils prient, les gens ne s'attendaient pas. Hein. Et souvent, de façon inconsciente, nous avons cette attitude. Nous prions sans nous attendre à Dieu. Acte 12, parce que on a fait de la prière des formalités. La prière, ce ne sont pas des formalités, c'est une affaire sérieuse. Acte 12, le verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait donc d'adresser pour lui des prières à Dieu. À votre avis, quelles étaient les prières qu'ils étaient en train de faire? Puisque Jacques, on venait de décapiter Jacques. Jacques était mort. Et le prochain, c'était Pierre. Et l'église priait. À votre avis, demandez quoi à Dieu? Dans de telles circonstances, on demande quoi à Dieu? Hein? Libération. Délivrance. Que Dieu fasse quelque chose. Mais non. Parce que le texte il est long, on va directement au verset 13. Parce que Pierre, il est en prison. La nuit, Dieu envoie l'ange qui permet la délivrance de Pierre. Mais non, au verset 13, Pierre arrive là où on prie. Là où les frères et les sœurs sont en prière. Il frappa à la porte, verset 13, du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Verset 14. Ce qui est intéressant ici, c'est quand même elle a reconnu la voix de Pierre. La Bible précise, elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Suivez bien la suite. Donc j'imagine que la prière a dû être coupée parce qu'on a frappé à la porte. Hein. Donc tout le monde était dans le suspense. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Et tout ça. Donc elle arrive au rapport. Et il dit, elle dit quoi? Elle courut annoncer que Pierre était donc devant la porte. Ils lui dirent, les frères, les sœurs, ils vont dire à la pauvre sœur, tu es folle. C'est grave. Tu es folle, ça commence là. Elle dit que Pierre est là, au lieu qu'on dit Alléluia. On dit tu es folle. Donc, vous êtes en train de prier qu'un miracle se passe. Le miracle est en train de se passer, vous dites non, c'est pas possible. Vous voyez, contradiction. Oui. Elle dit, mais il est devant la porte, il dit non, tu es folle. Un, ils disent tu es folle. Deux, mais elle affirma que la chose était ainsi. Mais elle aussi, elle aurait dû ouvrir la porte, elle a cherché à négocier là. Hein? Puisqu'il ne croyait pas, il dit d'accord, vous ne croyez pas, moi je vais vous aller le voir. Mais elle cherche à les convaincre, c'est dommage. Elle aurait pu ouvrir la porte. Elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, non seulement ils disent que tu es folle, deuxièmement ils disent quoi? C'est son ange. Vous priez pour que le miracle se passe. Hein. Mais lui, c'est son ange. C'est pas lui, mais c'est son ange.
Cependant, Pierre continuait à frapper. Lui continuait à frapper. Hein. Et ils ouvrirent. Et ce qui m'intéresse, c'est la fin du verset 16. Quand ils vont ouvrir, on dit quoi? Et ils furent étonnés de le voir. Mais pourquoi vous êtes en train de prier si ce n'était pas pour le voir? Ouais, vous priez pour que Dieu fasse des choses. Et lorsque la chose arrive, vous êtes encore étonné que ça s'est passé. Mais pourquoi tu as prié pour ça? Ils ont prié, mais ils étaient encore étonnés. Non, ils ne devaient pas être étonnés. S'ils croyaient à leur prière, s'ils croyaient au Dieu de miracle, que Dieu était capable de sortir Pierre, ils devaient bénir Dieu, mais pas être étonnés de le voir, puisque vous priez pour ça. Quand nous prions pour une situation et que Dieu il agit, ça ne nous étonne pas, ça doit nous pousser plutôt à le glorifier. Ça nous remplit de joie. On dit waouh, on est dans le waouh, Seigneur. Mais eux, ils étaient étonnés. Mais alors pourquoi ils ont pris tout ce temps-là à prier? Ils ont prié. Seigneur délivre. Et je vous avais dit le dimanche passé que ce qui nous intéresse lorsque nous sommes dans des situations difficiles, ce n'est pas comment Dieu va procéder. Lorsque tu es dans une détresse, ce que tu as besoin, c'est le résultat, la réponse de Dieu, l'intervention de Dieu. Mais non, les moyens que Dieu va utiliser, ce n'est pas ton problème. Et ils étaient en train de prier pour que Dieu délivre Pierre. Maintenant, Dieu a envoyé l'ange. Dieu a délivré Pierre sans qu'il y ait un décret officiel en pleine journée que laisser sortir ce monsieur. Dieu a procédé autrement. Maintenant, Pierre en question, pour qui vous priez, il est là, il se présente. Mais bénissez Dieu. Mais malheureusement, ils étaient étonnés de le voir. Pourquoi? Parce qu'ils priaient mais ne s'attendaient pas à voir le miracle. On peut prier et ne pas s'attendre à voir Dieu. C'est-à-dire qu'on prie juste pour des formalités. Ce qui fait que même après avoir prié, tu as même oublié ce que tu as demandé à Dieu. Combien de fois n'avons-nous pas oublié nos sujets de prière? Tu as demandé des choses, tu as oublié. Parce que tu ne prends pas ça au sérieux, tu n'y crois même pas. Tu es juste dans le mode formalité. Et lorsque un enfant de Dieu tombe dans le mode formalité, il ne va jamais s'épanouir dans la prière avec Dieu. Parce que la prière, ce ne sont pas des formalités. À un moment donné, ça va te tuer, ça deviendra pesant. Tu tomberas dans une routine, tu ne vas plus t'épanouir parce que tu es dans un mode mécanique. Le mode de la prière, ce n'est pas une formalité, c'est quelque chose de vivant. Tu trouves du plaisir à entrer dans sa présence, à lui consacrer du temps et à lui parler. Ce n'est pas le mode mécanique comme beaucoup le font. Le mode mécanique a rattaché avec le chronos, le temps. On doit surveiller le temps. On a dit qu'il faut prier au minimum une heure. Donc, un, tu es dans le mode mécanique. Et puis deux, tu es en train de suivre ta montre pour te faire une bonne conscience que tu as prié une heure dans la journée. Et vous pensez que Dieu prend plaisir à ça? Il ne prend pas plaisir. Pourquoi? Parce que tu regardes ta montre, tu pries, tu parles. Et tu regardes ta montre. Et à la fin, tu te rends compte, là, ça fait bientôt 58 minutes que tu es en prière. Tu dis, j'ai bientôt atteint le quota, parce qu'il faut une heure minimum, c'est que ce qu'on nous a soi-disant dit. Et la relation n'est plus vivante. On est comme des machines. Alors que Dieu veut des personnes qui lui parlent cœur à cœur, comme les David, là. Même si à l'époque, ils taillaient leurs ennemis, mais ils parlaient avec le cœur. C'est pourquoi tout part de comment vous êtes disposé. Tout part au point de départ de votre disposition de départ. Comment vous vous êtes disposé? Qu'est-ce qui vous amène dans sa présence? Parce qu'il y a toujours quelque chose qui doit t'amener dans sa présence. Tu te disposes comment? Si tu viens juste parce qu'il faut venir, c'est normal qu'après ça va être bâclé. Tu sortiras de la vie, toi-même, tu sens qu'il n'y a rien. Parce que tu es dans le mode mécanique. Il faut se disposer. Donc, il faut s'attendre. C'est pourquoi dans Marc 11, verset 24, toujours par rapport à s'attendre à Dieu. Vous ne pouvez pas prier sans vous attendre à Dieu, ce n'est pas possible. Il faut toujours s'attendre à Dieu. Marc 11, le verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dans la foi, là, il y a l'attente là-dedans aussi. Mmh. Je crois, donc j'ai la foi. Mais dans cette foi, là, il y a aussi l'attente. Parce que dans la foi, il y a la patience, il y a l'assurance, il y a la confiance, il y a l'espérance. Mmh. Mais il y a aussi l'attente, savoir attendre dans l'espérance que ce que Dieu a dit, il va le faire. Amen. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc celui qui prie avec foi, il croit et il sait que quelque chose va se passer. Il ne sait pas quand et comment, mais il sait que quelque chose va se passer. C'est tout ce qu'il sait. On doit avoir cet état d'esprit que quelque chose va se passer. Amen. Je ne sais pas comment Dieu va se débrouiller, mais quelque chose va se passer dans ma vie. Il faut avoir cet état d'esprit là. C'est pourquoi il a dit dans Habacuc 2, c'est ça au verset 3 si je ne me trompe pas, que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, si elle tarde, attends-la. La parole de Dieu, si nous avons l'impression qu'elle tarde, il dit faut attendre, il faut savoir attendre la réalisation des promesses de Dieu. Attendre, il n'a pas dit si elle tarde, si tu as l'impression qu'elle tarde, cherche d'autres solutions, ou bien change ta façon de prier. Il dit il faut savoir attendre aussi. Et c'est un exercice qui n'est pas facile pour la génération de maintenant. On est dans une société où on ne veut plus attendre. On veut voir tout de suite. Alors que Dieu n'est pas dans ce mode-là de l'express et du vite fait. Hein. La preuve, c'est que quand vous priez pour les sujets, il ne donne pas les réponses tout de suite. Hein. Il libère sa parole, mais la manifestation de ses paroles ne se fait pas là à l'instant T. Hein. Pourquoi ? Toujours parce que la foi doit être éprouvée. Ouais, la foi, c'est le centre, c'est le cœur. La foi en lui, là, il veut toujours voir les preuves. Est-ce que tu lui fais confiance? Jusqu'où tu peux lui faire confiance? C'est pourquoi dans Lamentations 3, au verset 26, là, il dit qu'il est bon d'attendre, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. On a dit d'attendre en silence, hein? On n'a pas dit d'attendre dans la panique. On n'a pas dit d'attendre dans beaucoup de discours. On a dit d'attendre en silence. Il faut savoir aussi être calme dans ton attente. Parce qu'il y en a qui ne sont pas silencieux, qui sont trop agités. Même Dieu lui-même, il constate que tu n'es pas en paix. Tu es trop agité. Il dit, il est bon d'attendre. Mais comment? En silence. Pas en te posant des questions, ça va se passer comment? Dieu va faire comment? Pourtant, le temps est en train de passer. Il ne t'a pas demandé de te poser ces questions. Il te dit tout simplement, attends en silence. Lui-même, il va faire. Il n'a pas besoin que tu sois son conseiller. Il n'a pas besoin que tu lui rappelles, mais Seigneur, là, c'est bientôt la fin du mois. Là. Il n'a pas besoin de ça parce qu'il connaît tout. Il te demande seulement d'avoir la foi. Attends, c'est tout. Malheureusement, c'est difficile pour nous parce que nous marchons avec ce que nos yeux nous donnent de voir. Nos yeux voient les échéances. Nos oreilles entendent les menaces. Notre corps subit les pressions, la maladie et tout cela. Et face à cela, on se dit, mais Seigneur, tu ne vois pas. Alors que lui, il ne te demande pas de lui rappeler ça parce qu'il sait. Il te dit seulement, attends. Attends-moi. Attends en silence. Garde un cœur en paix. Dans la tourmente, dans la tempête, garde un cœur en paix. Et ce n'est pas facile. Je crois qu'il y a eu une anecdote, il faut le dire ainsi, une petite histoire où on était en train de représenter la parfaite image de ce que c'est la paix. Et puis, dans cette représentation du véritable sens même de la paix, là je paraphrase et tout, il y a eu un monsieur qui a peint un tableau et dans ce tableau il y avait des orages, beaucoup d'éclairs, beaucoup d'orages. Et puis, sur ce tableau, il y avait un arbre, si je ne me trompe pas. Et sur cet arbre-là, il y avait un nid d'oiseaux. Et puis, on voyait les oiseaux, la maman, la femelle oiseau, là, qui était là, en train de dormir paisiblement avec ses petits. Et donc, ils ont trouvé un contraste, parce qu'ils ont dit, mais comment se fait-il qu'il y a des orages, des éclairs et tout cela? Et puis, l'autre, elle est sur son nid, tranquillement. Malgré les orages et les tempêtes, elle ne bouge pas, elle dort. C'était justement cette façon pour l'artiste de représenter la paix. Que malgré les tempêtes, les tonnerres, les difficultés, trouver le repos dans cette situation-là. Et ce n'est pas facile, mais en Christ, nous pouvons y arriver. Dans un monde où tout va mal, où déjà tout est arrêté, les décisions sur le plan de la médecine, sur le plan politique sont arrêtées, mais nous avons un peuple mis à part par Dieu qui doit trouver son repos malgré que tout va mal. Et ce repos-là, nous l'avons qu'en Christ. C'est le repos que Dieu nous donne. Et ce repos, cette paix, d'ailleurs, comme a dit Jésus, je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne. La paix que Jésus nous donne n'a rien à voir avec la paix du monde. Donc, savoir se reposer dans la tempête. Ça va mal, mais avoir un cœur en paix avec Dieu. Tout est réuni pour que tu sois en crise, tu sois complètement absorbé, envahi par la situation, mais tu as un cœur en paix. Les gens n'arrivent pas à comprendre, mais comment tu dis que tout va de travers, mais tu gardes ta paix. C'est la paix que Jésus nous donne. Parce que nous avons appris dans la foi à nous attendre à Dieu, quelles que soient les circonstances. Et ça, c'est quelque chose que nous devons apprendre. Apprendre. Il y a une parole justement qui me revient dans l'esprit dans Jérémie chapitre 12. Jérémie chapitre 12. Au verset 5. Écoutez bien. Et je vous encouragerai à méditer là-dessus cette semaine. Si tu cours avec les piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Point d'interrogation. Deux phrases interrogatives, mais qui nous parlent. Si déjà avec des piétons tu es fatigué, maintenant ça sera comment avec ceux qui sont sur les chevaux? Parce que tu vas y passer. La vie chrétienne n'est pas que dans un monde où tout va bien, dans le meilleur des mondes. Il y aura un moment donné où vous allez passer à la vitesse supérieure avec Dieu. Il n'y a pas que là, tranquille, c'est calme, c'est paisible. Lui-même, il le dit. Il n'y a pas que ça. Maintenant, quand tu vas arriver à l'autre étape, à l'autre niveau de ta vie, tu feras comment? Si déjà au premier niveau, là, tu n'as pas compris les principes, tu n'as pas su enraciner ta foi en Dieu. Maintenant, quand ça va être un peu plus profond, là, tu feras comment? Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, si déjà le piéton te fatigue, là, c'est terminé pour toi. Piéton, là, c'est le niveau, comme on dit, le niveau facile. Pas encore très, très, très haute, là. C'est facile. Piéton. Mais si déjà avec les piétons, là, tu n'arrives pas, mais quand ça va être avec les chevaux. Maintenant, il dit, si tu te crois en sûreté que, le que, là, il est important, hein. Si tu te crois en sûreté que dans une contrée paisible, virgule, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Parce que tu vas y passer également. Non, quand tu vas arriver là, quand ça sera maintenant devant les rives du Jourdain là, des situations encore plus difficiles comme je l'ai dit tout à l'heure, tu feras comment? Puisque tu es habitué à ce que tout soit facile. Donc quand Dieu va t'y encore chauffer cette fois le feu là, tu fais comment? Les amis de Daniel, déjà le fait qu'on les ait emprisonnés, on a dit qu'on allait les jeter au feu là, c'était déjà quelque chose qui faisait peur. C'était déjà la détresse, c'était la mort. Hein? Mais ils n'ont pas flanché. Le roi, puisqu'ils n'ont pas voulu renoncer à leur foi et tout cela, le roi va dire, il faut chauffer cette fois-là. Cette fois. Ayant entendu cette information de cette fois-là, ils auraient pu dire, ah, là, vraiment, ça devient compliqué, non, on préfère pour nous régner Dieu. Hein? Cette fois. Bien qu'on ait dit qu'on va chauffer cette fois, ils n'ont pas bougé dans leur confiance en Dieu. Jusqu'à ce qu'on les jette au feu. Vous vous rendez compte? S'attendre à Dieu. Si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Ça veut dire qu'il faut apprendre. à développer vos racines dans ce que Dieu a commencé à faire dans vos vies. Parce que ce que Dieu a commencé à faire dans vos vies, si vous développez vos racines, ça va vous servir pour les autres défis qui arriveront devant vous. Parce que les autres défis qui arriveront devant vous doivent trouver des hommes et des femmes qui ont déjà une foi assise sur Dieu. S'il n'y a pas ça, quand les autres défis arriveront, vous serez ébranlés. Parce qu'il n'y a pas d'appui. Il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de support, il n'y a rien. Donc, ce que vous vivez aujourd'hui qui semble être plus ou moins facile, là, c'est Dieu permet cela pour que vous construisez votre foi là-dessus. Que vous compreniez que Dieu est capable. Que vous avez besoin de faire confiance, comme on l'a chanté tout à l'heure. Que Dieu peut faire au-delà. En prévision sur l'avenir, n'est-ce pas? Comme ça, demain, lorsque les choses difficiles arriveront, vous saurez que hier, s'il a fait là, aujourd'hui, il peut faire. Mais si le hier, là, vous n'avez pas compris ce que Dieu a fait, vous n'avez pas mesuré ce que Dieu a fait, quand ça va venir, là, vous allez être balayé. C'est pourquoi il permet certaines situations, c'est à cause de ça, votre foi là, a besoin d'avoir des racines et des appuis. Donc, il faut s'attendre à Dieu, frères et sœurs. Donc, la foi, je l'ai dit, il y a l'espérance, il y a la patience, il y a la persévérance, mais il y a aussi l'attente. Quand on parle de la foi, il y a tout ça. Quelqu'un qui marche dans la foi avec Dieu, c'est aussi un homme qui sait attendre ce que Dieu va faire. C'est ça, la foi. Donc, il y a l'attente, il y a l'attente. Et sixième principe par rapport toujours à notre histoire, non seulement il s'attend à Dieu, mais il va faire une chose importante. Deux chroniques, on repart dans deux chroniques 20. Josaphat va faire quelque chose encore d'important. Donc deux chroniques 20. Voilà. Ok. Nous allons lire dans du verset 15. De Chronique 20 au verset 15, David déclare, et Jacaziel dit, soyez attentifs tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne serait pas vous qui combattrez, ce serait Dieu. Donc il y a une réponse de Dieu. Dieu parle, Dieu rassure, mais ce n'est pas suffisant. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tit et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat, verset 18, s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites, dont les fils de Kehatit et dont les fils de Korit se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils adorent une attitude, un cœur de louange et d'adorateur. Ils louent sans avoir vu, hein? Ils adorent sans avoir vu. Ils adorent Dieu. Ils n'ont pas dit, bon, quand on va voir là, après on va venir adorer. Ils adorent, ils le célèbrent avant d'avoir vu cette délivrance là. C'est un acte de foi, parce que si Dieu n'était pas crédible, qui prouve qu'ils allaient gagner le combat? Humainement parlant, il y avait quelle certitude qu'ils allaient remporter le combat puisqu'ils étaient seuls contre trois royaumes? Aucune certitude sur le plan humain. Mais où est cette foi finalement qui s'exprime par un cœur de louange et de reconnaissance à Dieu? Ils croient parce qu'ils adorent Dieu. Ils ne sont pas hésitants, dit, est-ce que c'est vrai ce que Dieu il a dit? On va d'abord voir. Ils adorent, ils louent Dieu avant de voir. Il faut avoir une attitude, un cœur de louange dans la prière. Vous louez Dieu à Dieu pour ce qu'il va faire. Vous avez prié le Seigneur, mais vous devez apprendre à le louer pour ce qu'il a déjà fait, pour ce qu'il va faire. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé et que tu m'exauces toujours.
Amen.
A dit Jésus. C'est rare que nous prions comme ça. Hein? Nous, on attend de voir pour rendre grâce. Ça, c'est comme ça que nous, on fonctionne. Nous, on veut voir pour rendre grâce. Lui dit là. Adorer. Ils ont loué avant d'avoir vu la délivrance. Ils n'ont pas encore vu la victoire, mais ils louent déjà Dieu. C'est un enseignement qui est riche. Ils n'ont pas vu, mais ils louent avant d'avoir vu. C'est une folie. Parce que sur quelle base tu vas louer Dieu puisque tu n'as rien vu? Mais je le loue parce qu'il a dit dans sa parole.
Amen.
Et donc moi, je m'attache à sa parole.
Amen.
Comme il a dit, il va le faire. Le comment là, ce n'est pas mon problème. Il va le faire, donc je bénis Dieu. Nous voulons grandir en maturité, aller plus loin avec Dieu maintenant. Changez votre façon de prier. Vous avez prié pour des choses, bénissez Dieu pour les choses que vous avez demandées. Surtout sur les choses que vous avez demandées, il y a des paroles bibliques qui soutiennent cela. Si Dieu a fait des promesses sur la situation dans laquelle vous êtes, bénissez Dieu parce que c'est sa parole. Louez le Seigneur pour ce qu'il va faire. Ils ont un cœur tout de suite de louange. Pouf, ils se sont mis à le célébrer et adorer Dieu. La Bible ne dit pas que c'est Dieu qui leur a demandé d'adorer. Hein? C'est eux-mêmes, après avoir entendu, ils se sont disposés à l'adoration tout de suite, automatiquement. C'est pourquoi même quand on parle d'adoration, de louange, là, n'attendons pas toujours qu'on vous dit louer, adorer Dieu. Ça doit être spontané, naturel en vous. Éclater en louange et en adoration devant l'Éternel. Dieu sans le protocole. Et eux, ils avaient cette attitude de cœur. Avoir un cœur de louange, avoir un cœur d'adorateur. Vous devez apprendre à pouvoir célébrer Dieu pour les choses que vous avez demandées, sans avoir vu. Il a dit heureux encore une fois, ceux qui ont cru sans avoir vu. Il a dit tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est une attitude. Et quand j'ai cru, je bénis Dieu. Je le bénis parce que j'ai cru, hein. Je ne le bénis pas parce que j'ai vu. Je le bénis parce que j'ai cru, j'ai la foi, je suis convaincu qu'il va le faire et je bénis mon Dieu pour ça. Pas parce que j'ai vu. Parce que si on attend de voir pour célébrer Dieu, on ne va pas beaucoup le célébrer. Hein. Parce que Dieu n'est pas un magicien. Il ne fait pas des tours de passe-passe tous les jours. À des moments, il ne fait rien. Donc pour autant, nous allons ne pas le célébrer. La louange à Dieu ne dépend pas toujours de ce qu'il a fait. Je vous dis qu'on loue Dieu sur la base de ce qu'il est. Pas sur la base de ce qu'il fait, parce qu'il ne fait pas toujours. Mais le fait qu'il soit Dieu est suffisant.
Amen.
Le fait que tu sois appelé fils de Dieu, que tu as accès à sa présence, c'est suffisant. Qu'il a des projets pour ta vie, qu'il t'a donné son esprit, il t'a donné sa parole, c'est déjà quelque chose qui mérite que tu le loues. Maintenant, la situation que tu vis aujourd'hui, tu attends que Dieu fasse, oui, il va le faire, mais s'il n'a pas encore fait, ne lui prive pas de la louange. Parce que la louange à Dieu ne dépend pas de ce qu'il va faire aujourd'hui, parce qu'il est avant de faire. Et si vous avez compris que Dieu est avant de faire, vous n'allez pas chercher vos appuis sur ce qu'il va faire, mais sur sa personne, sur qui il est. J'insiste toujours là-dessus parce que c'est fondamental. Parce que sinon, vous allez tomber dans des esprits de manipulation, de séduction, parce qu'il y aura des choses qui vont se faire, le surnaturel, vous allez penser, c'est Dieu, c'est Dieu. Il n'y a pas que Dieu qui fait le surnaturel, le diable aussi fait du surnaturel. Et on le voit dans le monde. Le diable est un séducteur. Et après avoir eu ce cœur de louange, regardez ce que Dieu va demander au peuple. Et ça, c'est un élément aussi important dans la prière. Ça, c'est le septième point. Après avoir le cœur de louange, le septième point, le Seigneur va leur demander. Pourtant, Dieu, dans sa toute puissance, aurait pu leur dire, mais écoutez, je vais faire rester à Jérusalem. Moi-même, je vais m'occuper d'eux. Dieu leur dit quand même, levez-vous, allez combattre. Mais Dieu dit que dans cette affaire-là, vous n'allez pas combattre. C'est moi-même qui vais tout faire. Mais Dieu leur dit quand même, levez-vous, allez rencontrer vos ennemis. Comment on peut expliquer ça? Il dit, dans cette affaire, c'est moi-même Dieu qui vais combattre. Mais, il dit, présentez-vous quand même. Tenez-vous là. Mais quand il dit présentez-vous là, c'est pas pour les combattre, puisqu'il dit que présentez-vous et tenez-vous là, et vous verrez la délivrance. En fait, vous venez juste pour assister. Pour être des témoins, comment je veux faire. C'est pourquoi dans le psaume 23, il a dit, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu oindues ma tête. Donc pendant que Dieu est en train de oindre la tête que tu es en face de tes ennemis, ils sont en train de voir. Ils constatent que Dieu est en train d'agir dans ta vie. Ça ne se passe pas en cachette, il faut qu'ils le voient.
Amen.
Donc, Dieu dit là, tu as prié et que tu dois aller confronter la chose pour laquelle tu as prié. Ce n'est pas parce qu'il veut que tu te battes avec tes forces. Il faut que tu sois témoin. Il faut que tu sois témoin. Ce n'est pas en restant à la maison dans ta chambre que tu vas voir. Il y a des situations où il faut que tu te lèves et que tu partes. Dieu l'a dit, tenez-vous, dit, levez-vous. Allez-y, allez vous présenter. Ne restez pas dans votre petit village. Non, non, allez-y, dit, tenez-vous. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. C'est vrai, dit demain, il ne vous effraie point. Il dit, sortez à leur rencontre. Et l'Éternel sera avec vous. Sors. L'Éternel est avec toi. Tu as prié pour une situation. Mais il faut aller affronter la situation. Il ne faut pas contourner, il ne faut pas chercher les virgules. Tu as confié ça à Dieu et tu es sûr que Dieu est avec toi. Va affronter le problème. Va affronter le problème qui t'a effrayé, qui t'a fait peur. Et Josaphat, t'as eu peur. On dit dans sa frayeur, il se disposa à chercher Dieu. Mais non, ce qui a fait peur à Josaphat, là, Dieu dit, va affronter ça. Va affronter tes peurs. Parce que là, c'est toi-même. Il n'y aura pas de spectateur, c'est toi-même. C'est la partie la plus difficile. Là, il n'y a pas d'assistant. C'est toi-même qui dois affronter tes peurs. Ce qui te fait peur, ce qui te terrorise, ce qui te frustre, le Seigneur nous demande de les affronter. Surtout quand on les a présentés dans la prière, il faut après aller confronter. Parce que tu ne verras pas la délivrance de Dieu si tu ne confrontes pas la chose qui t'a fait peur. Il y a des choses où il n'y a pas besoin d'une confrontation, mais d'autres choses, c'est la confrontation qui va te libérer. Tant qu'il n'y aura pas la confrontation, il n'y aura pas de délivrance. Parce que Dieu veut que tu assistes de voir comment il te délivre dans telle situation. Et ça, ils ont compris cela. Le Seigneur nous demande donc, il faut agir, se comporter comme si déjà on possédait la chose. Il ne faut pas contourner le problème. Il faut affronter le problème. Il faut se lever et affronter le problème. C'est un problème d'emploi, de boulot. Tu as prié, tu as jeûné, tu as intercédé. Après, tu te lèves, tu sors de ta maison. Tu repars chercher le boulot en question. Tu repars parce que c'est en repartant que tu verras la main de Dieu. Ce n'est pas en restant assis. Dieu fait ses miracles, c'est vrai, il peut faire quelque chose d'extraordinaire que tu reçoives après ta prière, un coup de fil qui te dit, monsieur, madame, passez, on a vu votre dossier et tout. Mais de façon générale, il faut se lever pour aller vers la chose qui a été un obstacle pour vous, pour pouvoir non pas se battre encore, dépenser votre énergie pour être encore frustré, non, mais pour pouvoir voir ce que Dieu est capable de faire lorsqu'on se confie en lui. Et c'est vraiment important. Et nous terminons par le huitième point au verset 22 de 2 Chroniques 20. On termine par là. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Seir qui étaient venus contre Judas et ils furent battus. La puissance de la louange. Ils ont, au moment où ils ont commencé à louer Dieu, Dieu siège, déclare les Écritures, au milieu des louanges de son peuple. Et l'histoire se termine par la louange. Non seulement ils adorent Dieu, ils sont reconnaissants pour ce que Dieu va faire, mais ils sont encore là, en train d'adorer le Seigneur. Ils louent Dieu. Et là, ce que nous remarquons, c'est que c'est au moment où, et là, cette information, elle est quand même importante, la Bible nous la mentionne, c'est que ça a tout son sens. On dit que c'est au moment où ils commencent à louer que Dieu va agir. Pas avant. Pourtant, Dieu avait dit que je vais moi-même, là, je vais les délivrer. Mais on dit que c'est au moment où il commençait les chants de louange, à ce moment-là, l'Éternel plaça une embuscade. C'est là qu'on comprend la puissance de la louange et l'atmosphère de louange dans nos vies. Amen. Il a seulement loué. Ils ont pas dit, bon Seigneur, mais non, fais ceci à droite, à gauche, au nord, au sud. Il y en a qui sont en train de fouiller le Seigneur, non. Il loue Dieu. Et Dieu agit. Ils sont en train d'élever Dieu et puis c'est Dieu qui est en train de faire son travail. Ce qui fait qu'il y a des gens qui l'ont expérimenté. Hein. Ils sont seulement en train de louer Dieu, mais des choses se passent dans le spirituel. Tu loues seulement Dieu, hein? Mais dans le spirituel, des choses sont en train de se passer. Tu n'es pas en train d'intercéder ni de supplier, tu es seulement en train de louer. Tu loues seulement le Seigneur et des choses se passent. Paul et Silas étaient en prison, ils étaient en train de louer le Seigneur et les fondements ont été ébranlés. La puissance de la louange. La puissance de la louange. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance dans tous les siècles. Amen. Voilà comment Jésus termine la prière du Notre Père. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Il s'arrête là. C'est à toi qu'appartient le règne, Amen. La puissance et la gloire dans tous les siècles. Et il clôture par Amen. Amen, ça veut dire que c'est ça, c'est vrai. Parce que Amen, c'est lui-même. Il l'amène. Donc il authentifie, il confie. Firme et il signe, il dit que c'est Alléluia. Ça. Amen. Amen. C'est pas un slogan Amen. Hein. Il est l'Amen, c'est lui-même. Ça commence par lui, ça se termine par lui. Ça commence par lui, ça se termine par lui. Ça commence par élever le Père et on termine avec le Fils. On doit comprendre ces choses-là. La prière, frères et sœurs, pour les hommes et les femmes matures. C'est comprendre ces huit principes fondamentaux qui sont tirés de cette histoire de Josaphat. Et dimanche prochain, Dieu le voulant, nous allons voir le protocole dans la prière. Il y a quand même un petit protocole, hein? Il y a un petit protocole. Mais pour aujourd'hui, je veux que vous preniez le temps de reméditer là-dessus. Le but, ce n'est pas de prier pour prier, parler pour parler. Le but, c'est que nous puissions retrouver les privilèges que nous avons de pouvoir être en communion avec le Père. Et que la prière est un élément fondamental et vital pour le croyant. Mais si nous ne comprenons pas véritablement les enjeux de la prière, on ne bénéficiera pas vraiment de tout de ces grâces et bénédictions qui sont rattachées à elle. Si nous comprenons les enjeux de la prière, ça ne sera plus le fardeau parce que dans nos assemblées, on se rend compte que les gens n'aiment pas la prière. Quand il y a des programmes de prière et d'intercession dans nos églises, les gens ne viennent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est la prière. Et parce qu'ils ont cru que prier, c'est parler seulement. Et parler, à un moment donné, à force de parler, tu es fatigué. Donc les gens se disent, mais si je vais là-bas, je veux parler, ça me fatigue. Mais si on a compris que c'est en esprit, que tout se fait en esprit, c'est notre esprit qui est en communion, en connexion avec le Père, à ce moment-là, on ne verra même pas le temps passer. Les gens qui ont réussi à se connecter en esprit avec Dieu ne se rendent pas compte du temps qui passe. Et il sort de là béni, restauré, rafraîchi. Parce que l'esprit est en communion avec le Père. Mais quand votre esprit n'est pas en communion, c'est là que ça devient dur dans la chair. Vous baillez, vous cherchez à ce que la réunion se termine vite. Parce que vous n'êtes pas en connexion. Votre esprit n'est pas en communion avec le Père. Quand les gens comprendront que l'importance d'avoir l'esprit en communion avec le Père, on ne va pas dire, ah, la prière, c'est quelque chose de fatigant. C'est pourquoi quand nous prions, il faut se laisser conduire par l'esprit. Quand vous êtes conduit par l'esprit, il vous ramènera dans le cœur du Père.
Amen.
Mais quand ce n'est pas l'esprit qui vous conduit, ça va être mécanique. Vous savez, souvent quand je prépare les cultes, j'ai mon bout de papier. Et quand je commence à jouer la guitare, après l'esprit, ouh, il m'emmène ailleurs. Il y a des choses que je n'ai pas prévues. Mais c'est lui le patron, c'est pas moi. Maintenant, si je reste dans le mode genre concert, il faut absolument que je fasse ce que j'ai prévu, ça va être mécanique. C'est parce que lui, il veut. Moi, je me dispose juste. Mais après, quand je commence, c'est lui qui conduit. C'est lui qui souffle à mon esprit d'autres chants. Et moi, je le suis. Et après, tu sors de là, tu es béni toi-même. C'est pas pesant. La prière, c'est ça. Il faut se disposer et permettre à l'esprit de vous conduire. C'est important. Vous retrouverez la joie, le plaisir d'être en communion avec le Père. Donc, frères et sœurs, prier, ce n'est pas parler. Parler pour parler, c'est être en communion d'esprit avec le Père. En communion d'esprit avec le Père. Donc, ce matin, on va prier. On va prier, on va rendre grâce à Dieu pour le privilège que nous avons en Jésus-Christ d'avoir accès à la salle du trône, d'avoir accès à la sainte présence de Dieu. Et le voile a été déchiré. Nous pouvons donc nous réjouir en Jésus-Christ du privilège que nous avons de pouvoir invoquer notre Père. Prions au nom de Jésus-Christ.
Merci.